Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Boussard, ex-président de Erdivois, maître zen et traducteur, éditeur de la maison d'édition Deversant.com. Bonjour Luc.
Bonjour Louis, bonjour chères auditrices et chers auditeurs.
Alors, tu es venu pour deux raisons. La première, pour annoncer une conférence qui aura lieu à Die au Loco Loco, le restaurant au 9 rue de l'Armellerie, le 12 septembre 2014 à 18h. Et puis aussi parler d'un bouquin que tu as traduit et commenté qui s'appelle
Immo. C'est un chapitre d'un très célèbre maître japonais du XIIIe siècle, maître Dogen.
Et tu vas nous en faire partager quelques-unes des pépites incommensurables et éternelles.
Volontiers, volontiers.
Alors pour commencer, une conférence à Die, donc le 12 septembre à 18h, Loco Loco, c'est pas la première que tu donnes. Tu es un habitué, tu fais du prosélytisme pour le zen avec assiduité et constance.
Prosélytisme, c'est pas vraiment le mot. En fait, je suis moine zen. Mon travail, c'est de pratiquer avant tout et en même temps essayer de mettre en orbite les gens qui sont intéressés par la recherche de la voie. Mais je ne me sens pas du tout prosélyte. Je cherche juste à donner aux gens l'occasion d'épanouir le trésor qu'ils ont en eux-mêmes. Mais je ne me sens pas en concurrence avec les autres religions, les autres voies, les autres disciplines. Pas du tout. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacun trouve la voie qui lui convienne. Et donc s'il y a des gens qui, par hasard, sont intéressés par les voies du zen, je souhaite être là, présent, pour les aider, pour les mettre en orbite.
Et alors justement, tu as un certain nombre de gens qui suivent le zen à Die, ça marche ?
Écoute, oui, on a un petit dojo qui existe maintenant depuis 6 ans, avec un petit volant de pratiquants réguliers, pas mal de turnover, comme on dit. Et tous les ans, traditionnellement, à la rentrée, je fais une conférence qui nous amène des gens nouveaux qui après restent ou ne restent pas. C'est un petit peu une manière d'avoir une façade, une vitrine sur le Diwa, quoi.
Et alors par contre, toi en tant que maître zen au-dessus de tout conflit mental, quand bien même tu n'aurais aucun disciple, tu ne t'en offusquerais point ?
Non, je m'en offusquerais pas, j'ai aucun problème de susceptibilité ou j'ai rien à prouver de ce côté-là. Mais par contre, je considérerais ça comme un handicap, parce que la pratique du zen n'est pas une pratique solitaire, c'est une pratique en groupe. On pratique avec les êtres humains, on pratique avec autrui. Et lorsqu'on pratique tout seul, on a un peu tendance à se ratatiner. Il n'y a pas la même ouverture, la même, comment dire, la même énergie. Donc, quand il y a des gens au dojo, je suis ravi, parce que moi je les aide, mais eux, en retour, ils m'aident énormément, ils me poussent. Il me pousse à m'engager plus dans ma pratique, à lâcher prise, à donner plus. Et donc, quand il y a du monde, je suis ravi.
Je suis surpris de ce que tu me dis. En fait, surpris tout en ne l'étant pas. Le terme que tu as employé à propos de pratique solitaire, de ratatination.
Ouais.
Donc, méditer seul dans son coin, c'est pas si bon que ça alors ?
Pour moi, c'est pas terrible. Ça existe, hein. Dans l'histoire du zen, il y a des gens qui sont restés dans notre histoire, dans notre tradition, comme des très grands maîtres, et qui étaient des ermites, qui n'ont jamais eu de disciples. Mais moi, c'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai appris avec Maître Deshimaru, il y a pas loin de 40 ans maintenant, c'est lui qui m'a formé. Et lui, il était vraiment dans la tradition de ce qu'on appelle le bodhisattva, c'est-à-dire l'être qui, à la limite, se sacrifie pour aider les autres. Le travail sur soi, en solitaire, c'est pas vraiment notre direction, nous. La dimension collective est beaucoup plus importante. Et puis en plus de ça, je pense profondément, je suis profondément convaincu que la pratique de la voie du zen est quelque chose de très salutaire. Donc j'ai envie de la partager. Et je ne peux progresser qu'avec les autres. Tout seul, je progresse pas du tout. Je m'enferme dans mon coin, je me raconte des histoires. La pratique avec les autres, c'est aussi une confrontation. On a besoin du regard des autres, on a besoin du retour des autres. En tout cas, moi, j'en ai besoin.
J'entends bien, mais ceci dit, quand on médite, avec cette fameuse petite phrase du zen, la posture chasse l'imposture, quand oui. on est bien droit, c'est quelque chose qui nous concerne éminemment. Personne n'est dans le champ de conscience de notre méditation. Quand bien même nous serions dans une salle avec d'innombrables méditants, c'est seul que je me bats avec mes douleurs, ma misère, ma souffrance. Comme disait le Bouddha, si la souffrance est universelle, elle commence avec moi, dans moi.
Bien sûr, dans une voie comme le zen, mais on retrouve ça dans bien d'autres disciplines, la notion de paradoxe est très très importante. C'est-à-dire que on ne peut pas adhérer à un seul côté. On ne peut pas dire le zen est une pratique collective, la pratique solitaire ne vaut rien, ou le zen est une pratique solitaire, peu importe les autres, de toute façon c'est mes problèmes à moi que je vais régler. Ça, c'est deux visions qui sont fausses. Ce problème de pratiquer avec les autres ou pratiquer tout seul, c'est un problème de complémentarité. C'est-à-dire qu'à la fois, dans un dojo, lorsqu'on fait zazen, on est complètement seul. Maître Deshimaru, dont je viens de parler, disait « faire zazen, c'est rentrer dans son cercueil ». Il n'y a pas d'endroit où on est plus seul que le cercueil. Mais en même temps, on est avec tous les autres, on est avec le cosmos entier. Il faut, quand on commence à aborder la pensée du zen, il faut bien se mettre dans la tête qu'il faut embrasser les contradictions, qu'il ne s'agit pas d'adhérer de façon intégriste et monolithique à un côté. Il faut, à la limite, dès qu'on dit quelque chose, il faut dire le contraire. Donc dans le dojo, on est à la fois complètement seul et complètement avec les autres.
Je me satisferais de ces explications. Peut-être qu'on pourrait revenir à certains fondamentaux du zen. Si tu devais faire l'article de cette technique de méditation, planter quelques fondamentaux, d'où ça vient, à quoi ça sert et à qui ça s'adresse, et que peut-on en attendre?
Oui, je peux faire un bref historique et puis une présentation. D'abord, tu as employé le mot technique de méditation. C'est vrai, mais en même temps, il faut nuancer ça tout de suite. Parce que, par exemple, dans la Chine ancienne, on disait le zen, c'est la méthode de la non-méthode. C'est-à-dire que ce n'est pas une technique pour arriver à un résultat. L'assise, zen, zazen, est complet à lui tout seul. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on s'aperçoit au fil des années. Dès qu'on s'installe vraiment dans cette posture, corps et esprit unifiés, parce que c'est une posture du corps et de l'esprit, on ne va pas plus loin, il n'y a pas autre chose, tout est déjà donné. Alors, c'est des choses qu'on ne réalise peut-être pas tout de suite, mais on s'en aperçoit après avec la maturité. On s'aperçoit que dès qu'on a commencé zazen, dès qu'on est entré dans cette posture, on avait déjà à sa disposition la totalité. Par contre, on n'en est pas nécessairement conscient et il y a très certainement un décalage entre notre perception de cette pratique et la pratique elle-même. Mais ce n'est pas une pratique pour arriver à un état, c'est une pratique qui est complète en elle-même. Le zen, puisqu'on veut parler un petit peu des fondamentaux du zen, le zen se résume à cette posture du corps et de l'esprit. C'est pas une technique pour arriver à un but, c'est quelque chose de complet en soi. Avec quelque chose de très précis en ce qui concerne la posture du corps, la posture de l'esprit et la respiration qui sert de trait d'union entre les deux. Mais une fois qu'on entre dans l'intimité de cette posture, qui comme tu le disais d'après la fameuse citation de Jacques Brosse, exclut l'imposture, on est dans la voie, on pratique la voie. On est sur le chemin et on est à la fois complètement centré, donc d'une certaine façon complètement seul, complètement centré, et complètement ouvert. On est à la fois complètement présent et complètement disponible.
Bien que ce soit ni une technique et qu'il n'y ait pas de but, que peut-on attendre d'une telle non-méthode?
Alors là encore, je vais être obligé de répondre par un paradoxe, qui est le paradoxe crucial, qui est vraiment le paradoxe, je veux dire essentiel, numéro un de la pratique de la voix, c'est que tous les maîtres le disent, on ne peut rien attendre de la pratique de la voix. Si on vient à la pratique de la voix en espérant quelque chose pour soi, on est sûr de se tromper, on est sûr de se faire des croche-pattes et de se casser la figure. Le truc de base, c'est que tout est là. Il n'y a rien à attraper, rien à saisir. Il y a simplement à se fondre avec ce qui est et qui est la nature cosmique, qui est l'éveil lui-même et qui nous préexiste. Donc on ne peut rien attraper pour soi-même. Et l'autre aspect du paradoxe, c'est que si on n'a pas, je ne sais pas quel mot employer, une ambition, une soif insatiable de réalisation, d'accomplissement, donc si on n'attend pas énormément, on ne jamais on ne pratiquera la voie. Donc il y a le point de départ qui met un être humain sur la voie, c'est ce sentiment d'insatisfaction énorme, de disproportion entre sa présence au monde et ce qu'il perçoit de ce qu'est la totalité du monde. Donc il y a cette espèce de coupure, de rupture, de faille qu'on veut boucher, donc d'attente énorme. Et en même temps, tant qu'on est à la recherche de quelque chose, tant qu'on veut attraper quelque chose, tant qu'on veut s'approprier quelque chose, on est à 10 000 lieues de la voie. C'est à partir du moment où on renonce à toute quête, à toute acquisition, à toute appropriation, que véritablement on peut être en harmonie avec le reste du monde. Et donc être vraiment dans la voie. Donc il faut toujours voir ces deux aspects-là. L'effort et le non-effort. La tension et le lâcher-prise. On marche sur deux jambes, on vole avec deux ailes.
Je comprends bien ce côté paradoxal qui anime le zen. On peut pas saisir l'instant puisqu'il est déjà passé, par exemple.
Il est déjà parti. Ouais.
J'entends bien. Mais ceci dit, bon, alors tu as dit qu'éventuellement les gens pourraient venir au zen parce qu'ils auraient une frustration, une soif, une scission en eux. Donc c'est quand même un objectif. C'est quand même une attente. Le fait de vouloir être apaisé ou le fait de vouloir être centré, c'est quand même un objectif louable.
Bien sûr. Bien sûr. Et s'il n'y a pas ça, si quelqu'un ne se pose aucune question, si quelqu'un est heureux dans sa vie professionnelle, dans sa vie de famille, dans sa vie de consommateur, dans ses relations avec ses amis, et que tout lui paraît baigné, rose, etc., s'il ne se pose aucune question, jamais il va venir s'asseoir sur un coussin, méditer pendant des heures. Dogen, dont on parlait tout à l'heure, qui est l'auteur du dernier livre que je viens de publier et d'écrire, disait que le départ dans la pratique de la voie, c'est un sentiment d'incomplétude, le sentiment de ne pas avoir, de n'avoir aucune prise sur la réalité. Ne serait-ce que du fait que nous sommes mortels et que de tout ce à quoi nous sommes attachés, il ne restera rien. Donc, c'est, d'après lui, et moi j'adhère, enfin moi c'est, ça correspond, ça recoupe l'histoire de mon propre parcours. S'il n'y a pas ce sentiment de frustration finalement, donc cette soif de quelque chose qui nous dépasse, d'une appartenance beaucoup plus vaste que celle de notre petit quotidien, de nos petites idées, de notre confort, de nos certitudes. S'il n'y a pas ce sentiment de frustration, d'incomplétude, et donc de manque, et donc de désir, je ne vois pas pourquoi on se lancerait sur la voie.
Ce qui est étonnant, c'est que, bon, alors, on n'en est pas, comme tu le disais tout à l'heure, à un paradoxe près. Bien qu'il ne faille rien attendre du Z, on peut attendre un apaisement quand même. Un petit apaisement. Et bizarrement, le but serait à ne plus éprouver le besoin de faire de zen, puisqu'on serait centré et on n'aurait plus de soif.
Le truc que je peux expliquer de façon assez simple, je sais pas si, enfin pour moi, je ne sais pas si c'est perceptible pour autrui, mais la pratique de la voix, elle commence vraiment à partir du moment où on a compris qu'on ne pratique pas pour soi, qu'il n'y a rien à ajouter à l'ego, qu'on ne va pas s'approprier, acquérir pour sa petite personne, je ne sais pas quoi moi, de la sagesse, de la compassion, des pouvoirs, une respectabilité. On ne pratique pas pour son ego. Et tant qu'on croit qu'on va s'approprier quelque chose, et ça c'est un piège, c'est ça le démon, hein, la tentation, c'est ça. C'est difficile de faire des catégories, parce que finalement la réalité, elle ne dépend pas de nos catégories. Mais on peut dire, pour être un peu schématique, que nous avons deux natures, deux appartenances, deux identités. Il y a la première, la plus évidente, qui est notre entité égotique, celle qui veut et qui ne veut pas, qui est toujours en rivalité, en conflit avec le monde, avec les autres, notre identité égotique. Et derrière cette identité égotique, et beaucoup plus fondamentalement, nous avons une nature totalement limpide, fluide, sereine, apaisée, qui dépasse, déborde totalement des frontières de notre corps et de notre esprit. Et une nature cosmique. Et c'est cette nature-là qu'on fréquente par la pratique de la voix. C'est avec cette nature-là qu'on devient intime. Et cette nature-là ne peut pas s'approprier quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas d'ego. Donc elle n'a pas d'endroit où mettre la connaissance, la sagesse, quoi que ce soit qu'on... Donc, on cherche pour soi, pour arriver à abandonner et à laisser de côté tout ce qui est du niveau des appétits, quoi, des appétits égotiques, pour vivre autant que possible, le plus possible, de plein pied avec notre plus haute dimension. celle dont j'essayais de parler tout de suite là.
Dans d'autres traditions spirituelles, on insiste sur ce qu'ils appellent souvent le mental, les idées, l'intellect, le petit vélo quand ça devient obsessionnel.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites des idées lors de vos pratiques dans le zen?
Oui, alors c'est là que le zen devient très précis et qu'il a sa véritable force, c'est que on a des recommandations très 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 précises sur la manière de traiter son mental. Alors bien entendu, d'abord le mental, il faut bien comprendre que ça appartient à la petite dimension, c'est totalement la dimension égotique. C'est dit dans toutes les traditions. Les mystiques chrétiens le disent, les soufis le disent, les Indiens d'Amérique le disent. Tant qu'on voit les choses à travers notre mental, nos idées personnelles, nos émotions, nos pulsions, on passe totalement à côté de la réalité. Et on traverse sa vie comme dans un rêve, on n'a jamais accédé à sa vraie nature. Donc, nous, lorsqu'on médite, il y a des directives très précises sur la posture du corps, il y a des directives très précises sur la respiration, et sur la pensée, il y a des directives aussi extrêmement précises. C'est-à-dire que il s'agit de ne pas entretenir les pensées, de ne pas alimenter le processus mental, mais il s'agit aussi de ne pas lutter contre, de ne pas résister, hein, c'est-à-dire ne rien saisir et ne rien rejeter. Donc l'attitude mentale du pratiquant de zazen, elle se résume très simplement à observation-concentration. C'est-à-dire qu'on observe tous les phénomènes intérieurs, tout ce qui se passe dans la tête, et il s'en passe encore beaucoup plus que dans la vie ordinaire. Parce que dès qu'on met le corps comme ça dans l'immobilité et le silence, l'ego, le mental, se rebiffe. Donc il balance un bombardement continu d'idées, de... Donc il ne s'agit pas de les entretenir, bien entendu, de ne pas suivre ce fil-là, mais il s'agit aussi de ne pas lutter contre, c'est-à-dire ne pas saisir et ne pas rejeter. Observer, et dès qu'on observe qu'un phénomène se produit, tout d'un coup, « Oh, quel salaud celui-là, le sale coup qu'il m'a fait, je vais me venger », on n'entretient pas cette pensée-là, on n'essaye pas de dire « Oh mais non, finalement il est gentil, je vais être gentil avec lui », c'est pas du tout ça. On observe la pensée et dans l'immédiateté même, dans l'instant présent, on la laisse passer. On la laisse passer comme un nuage dans le ciel, on ne la regarde pas. Et même si c'est une pensée très élevée, très pure, etc., on traite toutes les pensées de la même manière. Il n'y a pas de bonne pensée et de mauvaise pensée. Il n'y a que des phénomènes parasites que produit notre cerveau compulsif, impulsif, qui en fait a horreur de la tranquillité et du vide. Donc à force d'observer et de laisser passer, de se recentrer sur le physique et sur la respiration, on arrive à un état de sérénité. Parce qu'il se produit toujours des phénomènes intérieurs, des phénomènes mentaux. Mais on ne les entretient pas, on ne les suit pas et on ne les combat pas. Donc c'est ce qu'on appelle revenir à la source. On revient à une forme d'esprit apaisée, harmonieuse, voilà.
Dans lequel on s'installe et on vit effectivement dans le silence. Est-ce que c'est confortable de vivre dans le silence? Par exemple, il se passe quelque chose, tiens, je n'ai aucune opinion sur cet événement qui vient de se passer à proximité de moi. Ou alors, tiens, il se passe autre chose et rien ne se passe dans mon crâne. Ça pourrait paraître un peu perturbant, voire désincarné, cette histoire. Rassure-moi.
Écoute, il y a un petit peu de ça. Hein. Tu sais, c'est comme disait mon maître, le zen, c'est pas du gâteau. C'est pas facile. C'est une voie, c'est un combat. C'est une voie où il faut de la persistance, de la constance, de la pugnacité. C'est pas le long fleuve tranquille. Mais il faut préciser encore une fois qu'il s'agit pas d'arrêter de penser et de se murer, tu vois, dans je sais pas quoi, mais dans un sarcophage. C'est pas du tout ça. La subtilité, la finesse de ces pratiques-là, et là il n'y a pas que le zen, hein, c'est la notion dont je te parlais tout à l'heure d'appropriation et d'identification. C'est-à-dire que qui se présente des idées, des jugements, des affects, de la colère, c'est inévitable et on ne refuse pas ça. Mais par contre, on connaît l'accès à cette espèce d'esprit limpide, fluide, apaisé, et lorsqu'on a l'habitude de la pratique, on le retrouve instantanément. Et au lieu d'abonder dans le sens du mental, on revient immédiatement à cette source apaisée et tranquille. Il ne s'agit pas du tout de devenir une pierre qui ne pense plus, qui n'aime plus. Au contraire, on peut vivre beaucoup plus intensément la joie et la peine, mais sans appropriation, sans identification. Un peu comme si c'était quelqu'un d'autre. Un peu, on apprend à se voir soi-même comme quelqu'un d'autre.
C'est pas un peu perturbant de s'observer comme un étranger ou quelqu'un d'autre, parce que ça fait un peu schizophrénique. Il y en a au moins deux, il y a toi et celui qui t'observe.
Oui, c'est très juste. Toutes tes observations sont très justes. Maintenant, moi, je ne trouve pas ça perturbant. J'y ai trouvé, alors peut-être une forme de tranquillité que je n'avais pas avant, mais surtout j'y ai trouvé un idéal. Je ne peux pas dire les choses autrement, qui me mobilise complètement. Je ne peux même pas imaginer faire demi-tour, parce que cette désappropriation égotique. C'est la source de ce que certains textes appellent la joie pure, hein, le lieu de la joie pure. C'est-à-dire que ce n'est pas une joie qui est teintée d'égoïsme, c'est une joie cosmique, qui est la joie de l'univers entier. Et il n'y a rien de plus précieux que ça, quand on a commencé à percevoir un peu, tu vois, à approcher un peu cette dimension-là de nous-mêmes. On ne peut pas envisager, comme dit Obaku, un maître chinois du 8e siècle, je crois, il dit « pas d'échappatoire ». Ou comme dit Mahomet dans le Coran, « je t'ai attrapé et je ne te lâcherai plus ». Quand on est pris par cette vision de l'accomplissement de l'être humain, cette vision de la réalité, on ne peut pas faire demi-tour, ce n'est pas possible, ce serait un échec lamentable.
Alors justement, toi, as-tu pu constater, depuis le temps que tu professes, hein, tu es moine zen, donc tu enseignes, tu accompagnes, comme tu l'as dit, ouais, tout à l'heure, des gens que cette quête intéresse, as-tu pu constater justement que ce feu qui est allumé chez certains reste jusqu'à leur dernier souffle et que justement cette pratique les aide à traverser les tumultes de la vie sans trop de tempêtes mentales et autres apocalypses personnelles ?
Bien entendu, mais ça, quand on se lance dans cette voie-là, on ne sait absolument pas si on va arriver quelque part, si on va progresser, si on ne peut pas le savoir. Mais moi, j'ai eu la chance de fréquenter des grands maîtres zen, et pour moi, ça reste des modèles que je n'oublierai jamais. Quand j'ai des moments de doute ou de faiblesse, je pense à eux. C'était des hommes qui s'étaient totalement dévoués à leur mission et qui rayonnaient sur le plan humain, quoi. Et d'ailleurs, des hommes qui étaient très impressionnants. Je me rappelle quand je me promenais avec des Shimaru, avec Maître des Shimaru, à Pernetti, dans le 14e, tous les matins après Zazen, on allait faire une petite marche dans le quartier, et les gens se retiraient sur le côté, le saluaient avec un grand sourire. Il avait une aura de liberté et de joie qui déteignait totalement sur les gens de la rue, les commerçants, les promeneurs, les gens qui ont été plus loin que moi sur ce chemin-là. Sont des modèles, et sont des modèles à la fois d'accomplissement, de joie, de liberté.
Oui, mais alors justement, dans les gens que toi tu accompagnes, est-ce que ce feu prend ? Quand tu dis, une fois que c'est allumé, je ne te lâcherai plus. Donc est-ce que tu peux constater dans les générations actuelles, ce feu, cette motivation essentielle à arriver je ne sais où d'ailleurs ?
Oui, parce que personne ne le sait.
Voilà, donc est-ce que tu peux constater qu'il y a encore des aspirants dignes de ce nom ?
Écoute, oui, on en rencontre, pas beaucoup, hein, parce que, encore une fois, le zen, c'est pas du gâteau. Donc, je vois au dojo de Di et dans les autres endroits où j'enseigne depuis très longtemps, il y a pas mal de passages, il y a pas mal de gens qui viennent, il y en a très peu qui continuent. Et moi, ce que je pense, mais ça c'est une idée personnelle, c'est pas un enseignement zen, je pense que la situation sociétale, mondiale, de l'espèce humaine, n'est pas encore assez grave, que les gens pensent encore qu'ils ont des échappatoires, que la consommation, la réussite...
Le divertissement,
exactement, c'est le mot qui convient, est une voie suffisante. Parce que je pense qu'on est dans une période d'effondrement systémique extrêmement grave, quand les choses vont être plus sérieuses, je pense qu'on va voir affluer des gens, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les Uluberlus qui enseignent, tous les gourous, tous les Uluberlus qui enseignent n'importe tout et n'importe quoi. Pour le moment, oui, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui restent, oui, pas beaucoup.
Donc en fait, tu n'es pas seul à professer dans ton désert, heureusement. Hein,
non,
Vox Clamantis, ouais. Deserto, il n'y a rien de pire sans doute. Alors, c'est très bien cette petite conversation sur le zen qu'on a périodiquement tous les deux. Hein.
Oui,
j'aime
oui,
beaucoup.
Oui,
on, oui, voilà, on, oui, en fait, oui, on partage ce genre de conversation qu'on a de temps en temps sur le balcon de RDIWA.
Ouais, et même à l'antenne, on a fait plusieurs avec un autre maître zen, avec
Philippe Coupet.
Philippe Coupet, ouais, oui.
Je crois que c'est le mercredi matin et le samedi que tu as
séance de zazen,
des séances de zazen,
ouais,
c'est ça ?
Le mercredi matin et le dimanche matin.
Et le dimanche matin.
Moi, bien sûr, je fais zazen tous les jours, mais les séances publiques du dojo, pour le moment, on ne peut pas en faire plus parce que les effectifs ne sont pas assez nombreux. Donc, c'est deux fois par semaine. Plus des journées de zazen, des stages, mais la pratique quotidienne du dojo, c'est mercredi matin et dimanche matin.
Et alors, donc, ça te laisse suffisamment de temps pour avoir un certain nombre d'autres occupations, de type d'ailleurs professionnel, dont, comme on l'a dit tout à l'heure, traducteur d'anglais ou de japonais.
De l'anglais.
D'anglais. Et puis, éditeur dans la maison d'édition de Versant.com, dans lequel tu fais un travail de passation, de connaissances. Hein, là, tu vas même pouvoir nous parler du dernier livre que tu as édité, qui s'appelle « Et maintenant, que ce que tu fais ?» ou « Imo », dont tu pourrais nous partager quelques lumières. Je ne sais pas comment tu pourrais synthétiser un bouquin d'un maître qui date du XIIIe siècle. Oui. Est-ce que d'ailleurs, première question, est-ce que à ton avis, les enseignements d'un maître japonais zen du XIIIe siècle sont encore accessibles à nous autres occidentaux un peu dégénérés et décadents ?
Oui, alors là, pour moi la réponse, j'hésite pas une seconde, c'est oui, de toute évidence. L'enseignement du zen, en particulier parce que Dogen est un des grands maillons de la transmission du zen. Je peux très brièvement expliquer l'origine et le parcours de cette voie, parce que le zen c'est une voie. C'est né en théro-bouddhisme, c'est à partir du bouddhisme, à partir de l'illumination du Bouddha et de sa posture, la posture dans laquelle il a atteint l'éveil, qu'est né le zen. Il est passé en Chine au 5e, 6e siècle. Il a connu un immense épanouissement parce qu'il a été aussi fécondé par le taoïsme. Il y a eu une osmose absolument formidable entre le bouddhisme et le taoïsme, qui est en fait à l'origine du zen, qui en Chine s'appelait le chan. Et là aussi, il a connu toutes sortes de vicissitudes et de dégénérescences. Et il était moribond en Chine quand Dogen s'est rendu en Chine pour étudier le zen. Il a été extrêmement déçu. Les temples étaient liés au pouvoir politique, au pouvoir militaire. Ils avaient sombré dans le ritualisme, l'ésotérisme, des pratiques complexes, etc. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le temple de Maître Nyojo, qui, semble-t-il, était le dernier patriarche authentique dans la Chine de cette époque, qui lui a donné la transmission et l'a chargé d'aller diffuser cette voie au Japon. Donc Dogen est rentré au Japon en 1230 à peu près, et c'est lui le fondateur du Zen Soto, donc de la tradition Soto, parce qu'il y a plusieurs traditions dans le Zen, au Japon. Et il a développé des enseignements d'une puissance invraisemblable dans un livre qui s'appelle le Shobogenzo, le trésor de l'œil de la vraie loi, qui reste un des grands, grands textes spirituels de l'humanité, spirituel et littéraire, parce que c'est un poète aussi. Ce sont des enseignements parfaitement universels. Il ne s'agit absolument pas d'exotisme, d'imitation, des mœurs japonaises. C'est un enseignement universel destiné aux êtres humains en quête d'éveil.
Et encore une fois, on y retrouve cet appétit des paradoxes. Hein. Je vais me permettre de te lire une petite phrase qui m'a fortement impressionné. Hein. Donc, éminemment paradoxale. Donc, la petite phrase est la suivante. Il est un autre principe qu'il faut exprimer, même s'il ne l'a jamais été ni en Inde ni au ciel. C'est que si on est tombé sur le sol et qu'on essaie de se relever en prenant appui sur le sol, on n'y arrivera jamais. En vérité, c'est par un vigoureux retournement qu'on parvient à se relever. Autrement dit, si on tombe par terre, on se relève en prenant appui sur le ciel, la vacuité. Et si on tombe dans le ciel, la vacuité, on ne se relève en prenant appui par terre. S'il n'en est pas été ainsi, il est impossible de se relever. Tel a été le cas pour tous les Bouddhas et les patriarches. Alors, moi, ça me fascine. Quand on tombe par terre, il faut s'appuyer sur le ciel. Alors, je compte sur toi, au grand exégète du bouddhisme, pour nous expliquer en quelques termes bien sentis comment on peut se relever si on tombe sur le sol en s'appuyant sur le ciel et vice-versa.
Oui, alors il faut rappeler que dans le paragraphe précédent, il commentait une phrase des sutras bouddhiques qui dit « Si l'on tombe par terre, on ne peut se relever qu'en prenant appui sur le sol. » Et dans le paragraphe précédent, il disait « Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. » Cette phrase contient tout l'enseignement des Bouddhas et des patriarches. Et c'est là que vient le prodigieux retournement dont il parle dans le paragraphe suivant, celui que tu viens de nous lire. Il dit « Il y a un autre aspect des choses qu'il ne faut surtout pas oublier de prendre en considération, c'est que si l'on tombe par terre, on ne peut se relever qu'en prenant appui sur le ciel, et si l'on tombe dans le ciel, on ne peut se relever qu'en prenant appui sur le sol. » Alors il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. De façon assez schématique, On pourrait résumer ce paradoxe à celui de l'immédiateté et de la progressivité, qui est un paradoxe qui hante le zen chinois et japonais. C'est-à-dire qu'il y a la progressivité. C'est le premier paragraphe. Si on tombe par terre, on doit se relever par terre. C'est-à-dire, c'est la dimension du travail sur soi, de l'effort, de la constance, de la vigilance, de la répétition, comme dans les arts martiaux. On fait des katas, on répète, on s'assoit tous les jours sur le zafu, on salue, on se prosterne. Ça, c'est la dimension, lorsqu'on tombe par terre, on se relève par terre. C'est la dimension du progrès, du travail. Mais cette dimension ne suffit pas. Il y a aussi celle de l'immédiateté, du prodigieux retournement. C'est-à-dire que c'est par un accès immédiat et subit à la sagesse qui de tout temps est nôtre, mais que par aveuglement on ne voit pas, donc par quelque chose qui n'a rien de progressif, qui est complètement immédiat. Ça veut dire tomber par terre et se relever dans le ciel. Là, il n'y a plus de technique, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de travail, il y a l'immédiateté totale qui nous appartient de tout temps, parce que c'est ça, ces enseignements-là, notre nature propre, notre vraie nature, ce que nous sommes au fond, est une nature totalement libre et sereine. Et à laquelle, finalement, malgré tous les efforts qu'on fait, on n'accédera que par l'immédiateté. Soudain, comme ça. Quelque chose lâche et ça arrive. Donc c'est ça le sens de la deuxième phrase. Et après, si on tombe dans le ciel, on doit se relever par terre. Ça veut dire que si tout d'un coup, on est en pleine vacuité, en pleine bouillie fumeuse d'extase et de... Eh bien là, on prend appui sur le sol. On fait la vaisselle, le ménage, on fait son courrier, on va jardiner et on prend appui sur le sol. Voilà l'explication que je peux te donner.
Non, mais c'est très convaincant. Ça me fait penser à une autre tradition spirituelle que j'ai fréquentée, à savoir l'hindouisme advaita, c'est-à-dire non-dualiste, dans lequel ils disent tout simplement que ce que je suis, je le suis déjà. Pourquoi faire un effort pour être ce que je suis déjà? Ouais. Et donc, en fait, ils proscrivent tout effort pour être ce que je suis déjà. Au contraire, si j'essaye de
plus me... j'essaye, moi j'y arrive. Ouais.
Plus j'essaye de me guérir, plus je m'éloigne de moi, en fait. C'est pour ça que les deux mamelles de l'hindouisme advaita sont be quiet, rester tranquille. Mm-hmm. Et deuxièmement, qui suis-je? Savoir qui est celui qui est en train de créer le monde qui m'entoure.
Bien sûr.
Voilà, et en fait, je pense que sous d'autres mots, ils sont relativement proches, je pense. Il y a pas de...
Écoute, moi je vais te dire, je lis pas mal, je m'intéresse beaucoup aux différentes traditions, notamment au mysticisme chrétien. Je suis un lecteur fervent de Maître Eckhart, je m'intéresse au soufisme, donc j'ai une grande curiosité vis-à-vis de toutes les traditions. Et ma conviction intime, c'est qu'elles disent tous la même chose. Il existe des voies différentes, mais l'accomplissement de l'être humain est universel. Il n'existe qu'un modèle d'accomplissement de l'être humain, par des chemins qui diffèrent, par des traditions, des religions. Le zen n'est pas une religion, hein, mais il y a des religions aussi qui s'intéressent à ça. Les chemins sont multiples, mais le projet est le même.
J'entends bien ce que tu dis, je ne vais pas commencer à spéculer, mais on peut quand même noter qu'il y a un certain nombre de, tu en as parlé tout à l'heure, d'uluberlu, de pseudo-gourous qui peuvent être plus ou moins dangereux. Je pense à un, je ne voudrais pas me faire des ennemis, mais je pense à Nichiren Daishonin, le créateur de la Soka Gakkai, oui, qui dit un certain nombre d'inanités, à mon avis. Je vais arrêter tout de suite de dire du mal de quelqu'un, mais en tout cas, il y a un certain nombre de gourous qui disent n'importe quoi, quand même.
Ah ben, on pourrait trouver pas mal d'exemples.
Voilà. Mais... donc, qu'il y ait un accomplissement valable pour tout le monde, bien qu'il y ait plusieurs chemins, certes, mais il y a aussi un certain nombre d'impasses et de voies sans issue, parce qu'il y a un certain nombre de gourous qui ne sont pas dignes de confiance. Et malheureusement, alors il y a un adage qui circulait en Inde, qui est une terre éminemment spirituelle, et on disait qu'on rencontrait le gourou qu'on méritait.
Bon, écoute, le fait qu'il y ait un paquet de charlatans et de gens très mal intentionnés dans ce domaine de l'existence, c'est indéniable. Maintenant, on rencontre le gourou qu'on mérite. Pour moi, c'est un petit peu trop, c'est une idée qui est un peu trop entachée de ce qu'il y a de très contestable dans l'hindouisme, qui est la notion de karma. C'est-à-dire que si on est malheureux, c'est parce qu'on l'a mérité dans une vie antérieure, et si on est heureux, c'est parce qu'on l'a mérité dans une vie antérieure. C'est une idée que j'aime pas du tout, ça, moi. Et qui justifie les castes, par exemple, et tout ça. Donc moi, ce que je préfère dire, c'est que on doit se fier à son propre cœur, et on peut faire totalement confiance à son propre cœur. Si on s'observe bien, si on se regarde bien, on s'aperçoit si un enseignement, la pratique d'une voie, nous est bénéfique ou nous emmène dans l'erreur. Il faut toujours être à soi sa propre référence. C'est le Bouddha qui l'a dit d'ailleurs, c'est le testament du Bouddha. Et si on arrive à être sincère et honnête, On sait très vite si on est entre les mains d'un type mal intentionné ou si on a une pratique gratifiante et authentique.
Je suis presque d'accord avec toi. Je te citerai juste une petite parabole taoïste que j'adore. C'est les imbéciles verront les ennuis de près. Et puis deuxièmement quand même, c'est tout le problème de l'agitation mentale ou voire de la perdition, d'être dans un maelstrom émotif dans lequel on est perdu. Mais qui écouter quand on est agité? On ne sait plus comment écouter son cœur quand on est très agité de la caboche. Ça devient mission impossible.
Il faut trouver, et c'est là que revient pour moi la pratique des zazen, il faut trouver une juste distance par rapport au fonctionnement de son ego. Moi aussi, ça m'arrive d'être totalement perturbé et agité. Mais je regarde ça comme si je regardais, moi, je ne sais pas, moi, une grenouille en train de nager dans une mare. Je me dis, tiens, il est encore en train de s'agiter, celui-là. Et je l'observe plus ou moins amusé en attendant que ça passe. Le point clé, c'est la non-identification, la non-appropriation et la non-identification égotique. Lorsqu'on trouve cette juste distance par rapport à ses propres mécanismes plus ou moins névrotiques, on est sur le bon chemin.
Eh bien, sur ces bonnes paroles, Luc, on va peut-être pas s'appesantir sur ce bouquin. Je vous rappelle qu'il est quand même achetable à la librairie Mosaïque. Oui. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Ce sont des commentaires de deux chapitres du Shobogenzo.
Voilà.
Mais avec le titre « Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ?», on peut le demander à Mosaïque.
À Mosaïque.
Ou sur mon site.
Sur le site www.deversant.com. Et puis, rappelez-vous aussi que le 12 septembre à 18h au Loco Loco, Luc vous attend pour ce genre de considération et vous pourrez le brancher car il est inamovible ou presque.
Je risque de répéter à peu près ce que j'ai dit aujourd'hui. Mon discours ne varie guère.
Oh, quand même, tu as de la ressource. Eh bien, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à toi, Luc, et donc peut-être à cette conférence.
D'accord, et moi de même, je souhaite le meilleur à tous nos chers auditeurs et auditrices.
Au revoir, Luc.
Au revoir.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.